Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.
Bonjour, aujourd'hui direction le collège Le Réfessoir à Bléré pour écouter la classe de 3e C.
De quoi vont-ils nous parler ?
De 1984 de George Orwell.
1984, c'est quoi ?
Un roman dystopique écrit en 1948.
Et ça raconte quoi ?
Ça parle d'un monde sous un régime totalitaire qui supprime les libertés et impose le culte de la personnalité de Big Brother.
Oui, mais nous en reparlerons plus tard car nous sommes attendus. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir une interview exclusive de George Orwell.
Nous avons devant nous un homme brun, la quarantaine, une petite moustache, mais c'est Eric Blair.
Vous me connaissez sous mon vrai nom. Je croyais que vous connaissiez mon pseudonyme George Orwell.
Nous avons lu tous vos livres.
Vraiment ?
Eh ben oui. Et sinon, ça va ? Vous n'êtes pas trop dépaysé ? Ça fait quand même 74 ans que vous êtes mort.
C'est vrai que votre époque est très différente de la mienne. Avec votre téléphone sans cadran que vous mettez dans vos poches et votre internet, c'est incroyable.
Vous préférez vivre en 2024 ou au 20e siècle ?
Ah, vous venez de m'exhumer de 1950, alors n'allez pas trop vite. Même si vous, en quelques clics, vous pouvez avoir accès à des millions d'informations. Allez, à mon époque, nous étions obligés d'utiliser nos mains pour trouver des informations. Même si avant, c'était « Big Brother is watching you », aujourd'hui, ce serait « Google is watching you ».
J'ai une petite question. Pensez-vous que la société d'aujourd'hui, c'est en fait la société de 1984 déguisée ?
De ce que j'entends avec la guerre en Ukraine, que c'est un pays que je connais même pas, la guerre en Syrie, je sais pas où c'est, et l'Israël, la Palestine, je sais même pas ce qui s'y passe, c'est toujours pareil en fait.
Toujours pas guéri de votre tuberculose.
Si vous saviez les horreurs qui se déroulaient dans les hôpitaux en 1937, mais je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse. C'est la guerre en Espagne qui vous intéresse. Et moi, j'y étais à cette guerre. Et j'ai bien compris que les médias réécrivaient à leur guise les informations. Nous avions perdu une bataille. Et dans les journaux, je l'ai vu gagner. Mais alors aujourd'hui, avec TikTok ou TikTok, avec Snapchat, Instagram...
Ah oui, c'est vrai, vous avez connu la BBC ?
Oui, mais ce qui compte vraiment, c'est le terrain. Moi, je suis allé sur le terrain pour la Dèche à Paris. Je suis allé avec ces gens qui étaient justement dans la Dèche. Et j'ai bien compris leur quotidien. Mais j'ai l'impression que de vos jours, tout le monde peut devenir journaliste.
Ben ouais, maintenant tout le monde est journaliste. Moi, je produis des contenus, mon collègue produit des contenus, les adolescents produisent des contenus, des collégiens produisent des contenus. Tout le monde peut produire des contenus.
Donc 1984, en 2024, j'ai bien l'impression qu'on y est.
Merci à Mathis, Ruben et Lucie de nous en avoir dit plus sur George Orwell et son livre.
Et maintenant, nous allons parler de quoi ?
Élise, Maëlie et Dido nous présentent le roman dystopique en détail.
Et dire pourquoi 1984 est un roman dystopique.
Tout d'abord, la dystopie est un genre littéraire. Elle part forcément d'une situation réelle qu'elle exagère à outrance. Ici, 1984 décrit des sociétés imaginaires où règne l'oppression, la surveillance constante et la restriction des libertés. C'est un univers sombre qui met en lumière les conséquences des abus de pouvoir et des régimes totalitaires.
D'ailleurs, 1984 de George Orwell est considéré comme un modèle du genre.
Ah bon, mais pourquoi ?
Car il met en avant le contrôle de l'État sur la vie des citoyens, la manipulation de la vérité et la surveillance omniprésente. Le monde est dominé par trois grandes puissances qui se livrent une guerre perpétuelle depuis 30 ans. L'Océania, l'Estasia et l'Eurasia.
D'où vient le titre 1984.
George Orwell a choisi le titre 1984 en inversant les chiffres de l'année où le livre a été publié, soit 1948. Ce choix renforce l'idée que le roman est une critique de la société de l'époque et une mise en garde contre les régimes totalitaires qui pourraient mener à un avenir dystopique. Plus jamais ça.
C'est quoi le contraire de la dystopie ?
C'est un concept qui décrit une société idéale, parfaite et sans défaut. Dans une utopie, tout fonctionne harmonieusement, la justice règne et les besoins de chacun sont comblés.
C'est un monde imaginé où les problèmes et les injustices de la réalité n'existent pas. Par exemple, la Corée du Nord croit vivre dans une utopie, alors que de notre point de vue, ils vivent dans une dystopie.
Merci les filles de nous avoir éclairées.
Maintenant, la lecture d'un extrait. Au début du roman, le héros, Winston, décide d'écrire dans son journal pour laisser une trace.
Chloé et Lélio au micro.
Ce qu'il allait commencer, c'était son journal. Ce n'était pas illégal, rien n'était illégal, puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était découvert, il serait, sans aucun doute, puni de mort ou de 25 ans, au moins, de travaux forcés dans un camp. Il plongea la plume dans l'encre, puis hésita une seconde. Un tremblement lui parcourait les entrailles. Faire un trait sur le papier était un acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit
« 4 avril 1984 ».
Il se redressa. Un sentiment de complète impuissance s'était emparé de lui. Pour commencer, il n'avait aucune certitude que ce fût vraiment 1984. On devait être aux alentours de cette date, car il était sûr d'avoir 39 ans, et il croyait être né en 1944 ou 1945. Mais par les temps qui couraient, il n'était possible de fixer une date qu'à 1 ou 2 ans près. Pour qui écrivait-il ce journal ? Cette question, brusquement, s'imposa à lui. Pour l'avenir, pour des gens qui n'étaient pas nés. Son esprit erra un moment autour de la date approximative écrite sur la page, puis bondit sur un mot novlangue. Double pensée. Pour la première fois, l'ampleur de son entreprise lui apparut. Comment communiquer avec l'avenir ? C'était impossible intrinsèquement ? Ou l'avenir ressemblait au présent et l'on ne l'écouterait pas ? Ou il serait différent et son enseignement, dans ce cas, n'aurait aucun sens ? Pendant un moment, il fixa stupidement le papier. L'émission du télécran s'était changée en une stridente musique militaire. Winston semblait non seulement avoir perdu le pouvoir de s'exprimer, mais avoir même oublié ce qu'il avait d'abord eu l'intention de dire. Depuis des semaines, il se préparait à ce moment, et il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce dont il aurait besoin, c'était de courage. Écrire était facile. Tout ce qu'il avait à faire, c'était transcrire l'interminable monologue ininterrompu qui, littéralement depuis des années, se poursuivait dans son cerveau. En ce moment, cependant, même le monologue s'était arrêté. Il se mit soudain à écrire, dans une véritable panique, imparfaitement conscient de ce qu'il couchait sur le papier. Minuscule, quoique enfantine, son écriture montait et descendait sur la page, abandonnant d'abord les majuscules, finalement même les points.
4 avril 1984. Hier, soirée au ciné. Rien que des films de guerre. Un très bon film montrait un navire plein de réfugiés bombardé quelque part dans la Méditerranée. Auditoire très amusé par les tentatives d'un grand homme gras qui essayait d'échapper en nageant à la poursuite d'un hélicoptère, on le voyait d'abord se vautrer dans l'eau comme un marsouin. Puis on l'apercevait à travers le viseur du canon de l'hélicoptère. Il était ensuite criblé de trous et la mer devenait rose autour de lui. Puis il semblait aussi brusquement que si les trous avaient laissé pénétrer l'eau. Le public riait à gorge déployée quand il s'enfonça. On vit ensuite un canot de sauvetage plein d'enfants que survolait un hélicoptère. Une femme d'âge moyen qui était peut-être une juive était assise à l'avant, un garçon d'environ 3 ans dans les bras. Le petit garçon criait de frayeur et se cachait la tête entre les seins de sa mère comme s'il essayait de se terrer en elle et la femme l'entourait de ses bras et le réconfortait alors qu'elle était elle-même verte de frayeur. Elle le recouvrait autant que possible comme si elle croyait que ses bras pourraient écarter de lui les balles. Ensuite, l'hélicoptère lâcha sur eux une bombe de 20 kilos qui éclata avec un éclair terrifiant et le bateau vola en éclats. il y eut ensuite l'étonnante projection d'un bras d'enfant montant droit dans l'air. Un hélicoptère muni d'une caméra a dû le suivre et il eut des applaudissements nourris venant des fauteuils, mais une femme qui se trouvait au poulailler s'est mise brusquement à faire du bruit en frappant du pied et en criant « On ne doit pas montrer cela, pas devant les petits. On ne doit pas, ce n'est pas bien. Pas devant les enfants, ce n'est pas bien. » Jusqu'à ce que la police la saisisse et la mette à la porte. Je ne pense pas qu'il soit arrivé quoi que ce soit. Personne ne s'occupe de disent les prolétaires. Les typiques réactions prolétaires, jamais on...
Winston s'arrêta d'écrire, en partie parce qu'il souffrait d'une crampe.
Mais attendez, je ne comprends pas. Écrire un journal, c'est illégal ?
Non, mais dans la société de 1984, réfléchir, hésiter, se poser des questions est interdit. Dans cette société, les gens sont obligés de pratiquer la double pensée.
La double pensée ? C'est quoi ?
C'est un mot de novlangue.
Le novlangue ?
Je peux pas t'en dire plus, mais si tu écoutes l'émission, tu sauras.
On voit vraiment qu'il se met en danger.
Mais qu'est-ce qui l'a poussé à écrire dans son journal ?
La propagande. Ethan et Quentin vont en parler tout de suite.
La propagande sert à imposer ses idées politiques en falsifiant la vérité.
En effet, dans 1984, le personnage Winston est oppressé par les affiches d'une personne moustachue et d'une quarantaine d'années, une expression à la fois rassurante et sévère. C'est le chef du parti, Big Brother.
Les moyens employés pour exercer la propagande sont multiples. Le cinéma, la publicité, les affiches électorales, certaines émissions de télé, les réseaux sociaux, Internet et même la radio.
Dans 1984, le parti utilise une sorte de radio appelée télécran. C'est une machine transmettant des informations en continu sans qu'on puisse l'arrêter. À force, ce bourrage de crâne nous fait dire des choses insensées telles que 2 plus 2 égale 5. Les affiches qui sont collées un peu partout dans la ville de Londres en 1984 sont composées chacune de deux éléments. Le premier élément, Big Brother est placé de sorte à ce que celui-ci nous regarde tout le temps. Et le deuxième élément, le slogan bien sûr. Big Brother is watching you. George Orwell a un avis lui aussi sur la propagande.
La propagande totalitaire n'a pas besoin de convaincre pour réussir. Le but de la propagande est de produire le découragement des esprits, de persuader chacun de son impuissance à rétablir la vérité autour de soi et de l'inutilité de toute tentative de s'opposer à la diffusion du mensonge.
Effectivement, ça donne pas envie.
On touche le fond là.
Je pense que Fanchon et Azilis vont parler de pire.
Dans 1984, George Orwell dénonce la dictature de l'information. Dans son monde, les documents sont soi-disant archivés, mais ils sont refaits pour qu'ils correspondent à ce que veut Big Brother. Les habitants de l'Océania sont laissés volontairement dans l'ignorance.
Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une dictature. Mais pouvons-nous rapprocher le traitement des archives de 1984 du traitement de l'information de 2024 ? Il est vrai que de nos jours, nous pouvons nous faire manipuler par les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de TikTok ou même de Insta. Plus nous allons regarder un contenu, plus on aura des actualités similaires. Dès qu'on ouvre TikTok, on tombe directement sur des choses qui nous plaisent et on ne va pas voir plus loin. Attention de ne pas nous fermer des portes sur les autres actualités. Restons vigilants, soyons curieux. Pensons à la diversité des médias. Gare à Big Brother.
George Orwell était sans doute loin d'imaginer que, 80 ans plus tard, son roman ressemblerait de plus en plus au monde d'aujourd'hui.
Non, je ne pense pas. C'est exactement ce dont vont nous parler Logan, Yanis et Armand.
Notre sujet sera donc basé sur la comparaison entre les méthodes de surveillance inventées dans 1984 et les actuelles IA. Dans le roman, Big Brother utilise des télécrans, des sortes de télé de propagande qu'on ne peut éteindre et qui sont équipés de micros et de caméras pour surveiller les citoyens en permanence.
Oui, et vous aurez peut-être remarqué ce qui y ressemble dans notre monde. Les caméras de surveillance intelligentes, elles sont capables d'enregistrer et d'analyser les comportements en temps réel, détectant ainsi les mouvements suspects, reconnaissance des visages et même reconnaissance des émotions.
En plus, les assistants vocaux comme Alexa ou Siri dont de plus en plus de maisons sont équipées, sont capables de nous écouter en permanence. Ainsi, ces dispositifs, bien que utiles, suscitent des questions sur la confidentialité des données et sur la surveillance, comme les microphones de 1984.
La collecte massive de données appelée Big Data fait également penser au contrôle de l'information de Big Brother, d'où son nom. Nos recherches, achats et interactions en ligne sont enregistrées et analysées pour cibler la pub et nous influencer, ce qu'on appellera les cookies.
Enfin, nous avons aussi la manipulation de la langue dans 1984. Big Brother a créé la nouvelle langue, une langue dont le nombre de mots est le plus diminué possible pour limiter la pensée critique. Cette langue fait penser aux algorithmes des réseaux d'aujourd'hui qui nous exposent toujours aux mêmes choses. Cela nous donne ainsi une seule et même vision du monde.
Pour conclure, on peut dire que même si le monde d'aujourd'hui est différent de 1984, les points communs entre la surveillance de Big Brother et les IA sont nombreux. Elles soulèvent d'importantes questions sur la confidentialité et la liberté que nous confère actuellement l'IA. Il est important de rester vigilant et de réfléchir à l'impact de ces technologies. Attention à ne pas passer du côté obscur de la force. D'ailleurs, si Yoda était là, il nous dirait « Lorsque artificielle est l'intelligence, attention, vigilance. »
Et y a-t-il des exemples dans la vraie vie ?
Oui, en Chine, la population est extrêmement surveillée.
On écoute maintenant Léna et Alena qui vont nous en parler.
Dans le livre 1984, George Orwell évoque le contrôle de la population par le gouvernement oppresseur. Mais les méthodes utilisées par le parti pour contrôler la population ne sont pas sans rappeler celles encore utilisées aujourd'hui et perfectionnées grâce à la technologie. Comme en Chine, par exemple, à travers le crédit social. Mais est-ce que Orwell n'avait pas simplement prédit ce qu'il se passe aujourd'hui en termes de surveillance de la population ? Direction la Chine, regardons ce qu'il se passe avec le crédit social. Mais alors, qu'est-ce que c'est le crédit social finalement ?
En fait, le gouvernement chinois a mis en place un système pour surveiller sa population. C'est vraiment poussé à l'extrême, la population n'a plus aucune liberté, surveillée 24 heures sur 24. Mais étant donné qu'ils ont grandi dans ce système, il n'y a presque aucune résistance.
Ah bon ? Mais comment le gouvernement peut surveiller à ce point la population ?
Eh bien, par exemple, la population est surveillée en permanence par des caméras à reconnaissance faciale. Ensuite, l'intelligence artificielle relie chaque visage et action à un numéro. Le plus fou, c'est que les Chinois ont un score social en fonction de s'ils gèrent bien leur compte, la traversée de la route au bon moment. Même leurs achats sont contrôlés. De l'alcool ferait par exemple baisser leurs notes.
Wow, effectivement, c'est assez extrême. Mais qu'est-ce qu'il se passe si notre score est trop bas ?
Eh bien, actuellement, 23 millions d'individus ont leurs notes à zéro. Par exemple, un journaliste chinois a critiqué le gouvernement et désormais il n'a accès qu'au minimum vital. De l'eau et de la nourriture, mais pas en grande quantité. Il n'a même pas le droit de quitter la Chine.
Mais c'est horrible. Et à l'inverse, si notre score est très haut, qu'est-ce qu'il se passe ?
Les citoyens modèles ont, eux, accès à de nombreux avantages. Ils ont par exemple des réductions sur les produits de la vie courante et les transports. Ils arrivent même qu'ils aient accès à la culture gratuitement grâce aux cartes de bibliothèque, par exemple.
Mais les Chinois sont vraiment d'accord avec ça ?
Eh bien, on ne peut pas vraiment savoir, étant donné qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. La presse est contrôlée et quand un journaliste a le courage de s'opposer au système, il voit son nom apparaître sur la liste noire et est jugé indigne de confiance. Néanmoins, il est certain qu'au moins une partie de la population est d'accord avec ce système et l'encourage.
Il y a vraiment des Chinois qui encouragent ce système ?
Oui, vraiment. En même temps, ils sont conditionnés à l'accepter depuis tout petit. En primaire, par exemple, ils organisent des concours de dénonciation. Les élèves ont des bons points s'ils dénoncent leur camarade qui a fait un faux pas.
Quoi ? En primaire, des concours de dénonciation ? C'est choquant, en effet. Merci d'être venu nous parler de ça. Ça rappelle en effet les conditions de surveillance dans 1984. George Orwell pensait exagérer, mais c'était en fait un visionnaire.
Merci pour ces réponses, les filles.
Vraiment impressionnant. On ne s'y attendait pas. Il existe encore des pays sous autant de surveillance ?
Des personnes résistent-elles ?
Oui, on en parle tout de suite avec Laurie, Célia et Lilou.
Dans le livre de George Orwell et dans la vraie vie, il existe plusieurs façons de résister. Winston Smith, personnage principal, résiste contre le parti de Big Brother. Il commence par se cacher dans l'alcôve de son appartement à l'abri du télécran pour écrire clandestinement un journal. Il y écrit ce qu'il garde en tête des archives que son métier l'oblige à détruire pour la propagande.
Il espère sensibiliser et faire réfléchir les générations futures pour qu'ils résistent et qu'ils ne soient plus sous l'emprise de la dictature.
Ensuite, il rencontrera Julia. Il pensera d'abord qu'elle fait partie de la police de la pensée et qu'il sera arrêté. Mais il va savoir qu'elle l'aime. Ils ont eu des moments clandestins comme dans la rue et dans l'appartement caché au-dessus de la boutique de l'antiquaire de M. Charrington.
Ensemble, ils résistent en intégrant le groupe de la fraternité. Ils retrouveront l'espoir d'enfin sortir de cet enfer. Ils nous donnent la clé de la résistance, s'unir et partager des moments. Ils nous donnent la clé de la résistance, s'unir et partager des valeurs.
Il existe d'autres formats que des romans?
Oui, des BD et des films. On en parle tout de suite. Pour aller plus loin, nous vous conseillons les reprises du livre. Des films et des BD sur 1984 sont sortis.
Il y a aussi une dystopie qui s'appelle Karma City de Pierre-Yves Gabrion, sortie en 2016.
Et avant, un roman de Robert Harris nommé Fatherland, paru en 1992.